France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT Sandinger House.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Comment parler aux États-Unis aujourd'hui? Comment parler à ce président Trump décousu qui fait tomber la mâchoire quand on l'écoute à l'ONU, mais qui est bel et bien président des États-Unis? On ne peut pas faire sans lui. Comment font les chefs d'État? Comment font les diplomates? C'est à l'ancien ambassadeur de France à Washington, Pierre Vimont, que nous posons la question. Taxation des plus riches, endettement, majorité faible. C'est notre budget, le sujet? Pas du tout. C'est celui de l'Allemagne, figurez-vous. Ça va nous rappeler des choses et ce sera le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Il faut lever le pied quand on conduit sur les canaux à Venise, parce que désormais, il y a des radars pour sauver la lagune.
La ligne verde, non, quindi l'alga qui arrive. Et
tu vois la ligne verte qui arrive, non? Ce sont des algues laissées par les vagues. Il y a une fente entre deux pierres. C'est le mortier qui a été retiré par la houle. Nous sommes en train d'effriter Venise.
Et c'est Bruno Duvic qui nous raconte tout ça autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé des femmes qui veulent du pouvoir, et c'est à Lagos, au Nigeria. Et puis Olivier Norek a tout compris de la Finlande et sa relation aux voisins russes. Les Finlandais le lui disent. Ils ont adoré les guerriers de l'hiver. Ilana Mor-Youssef nous le raconte dans Écrire le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Allons-y, les amis.
I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. Your countries are going to hell.
Voilà, j'aime l'Europe, nous dit Donald Trump hier donc à la tribune de l'ONU, mais vous allez en enfer si vous ne stoppez pas l'immigration. C'est un seul extrait, on aurait pu en choisir d'autres. Bonsoir Pierre Vimont.
Bonsoir.
Vous avez été ambassadeur aux États-Unis, vous avez terminé votre carrière à Bruxelles, mais vous êtes toujours chercheur associé au think tank Carnegie Europe. D'abord, dites-nous comment vous, avec votre casquette de diplomate, vous l'avez reçu, ce discours de Donald Trump. Est-ce qu'on se dit, quand on a été diplomate, comment on fait désormais, comment on s'adresse à un homme qui ne respecte pas les règles?
Oui, c'est pas tout à fait nouveau. On avait déjà vu ça avec le Trump numéro 1 pendant son premier mandat. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à cette, j'allais dire, cette nouvelle réalité politique que représente Donald Trump. Donc, il faut réfléchir à la bonne manière de parler à Donald Trump. Et c'est intéressant parce que les Européens, entre eux, sont divisés sur la bonne manière de lui répondre. Il y a ceux qui disent il faut baisser la tête, il faut faire de la flatterie, il faut être complaisant, si nécessaire, accepter des compromis. Et on l'a vu tout cet été autour du sommet de l'OTAN ou de la négociation commerciale. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, disent il faut tenir tête, il faut pas avoir peur. Au fond, le président Trump écoute ceux qui sont forts et qui lui résistent et qu'il faut lui résister. Et puis, il y a ceux qui essayent de trouver entre les deux. Je dirais que c'est un peu la ligne du président de la République qui essaye de s'adapter et qui, en fonction des circonstances, savent tenir tête et parfois doivent laisser passer. Mais c'est un nouveau jeu diplomatique qui est devant nous et qui va durer encore pendant un moment.
Est-ce que ce discours à l'ONU signe quand même le changement d'air, probablement beaucoup plus que le précédent? La charge est anti-climat, anti-migrant, anti-Europe, anti-ONU, anti-multiralisme, elle est très égocentrée. Est-ce que c'est une manière, au fond, de se moquer de l'ONU, par ailleurs, puisque de toute façon, il déteste cette institution, il la traite donc avec beaucoup de désinvolture? Ou est-ce que ce qu'on a vu, j'ai un peu peur de votre réponse, Pierre Vimont, est-ce que ce qu'on a vu, c'est le visage des États-Unis 2025, c'est la charge, la même charge, puissance 10, que celle que J.D. Vance avait envoyée, au fond, à Munich il y a quelques mois?
Oui, vous avez raison, mais il me semble que peut-être là où il faut tenir compte de ce phénomène Trump, c'est qu'il me semble qu'en règle générale, quel que soit l'auditoire devant lequel il s'adresse, Donald Trump a toujours un discours qui est avant tout un discours pour la consommation intérieure. C'est-à-dire, au fond, le discours qu'il a fait devant les Nations Unies, c'est le discours qu'il fait dans les meetings publics pendant sa campagne présidentielle, qu'il fait encore aujourd'hui. Et donc, au fond, peu importe quel est l'auditoire, il dit toujours la même chose.
Un discours intérieur, vous dites, est-ce qu'il s'adresse aussi à nous, les peuples, plus seulement aux dirigeants. Est-ce que c'est d'une certaine façon une invitation à nous retourner contre nos dirigeants, à imposer des choses à nos dirigeants? Est-ce que c'est ça qui fait aussi?
Il y a peut-être cela, vous avez raison, c'est vrai, mais je dirais qu'il y a un autre élément chez Trump. Il y a deux ou trois ingrédients qu'il faut toujours prendre en compte. Et l'un d'entre eux, c'est que il se voit comme le roi de la communication. Et que donc, à l'ONU, il n'a absolument pas l'intention de faire un discours ennuyeux, comme c'est souvent un peu le cas, de ne pas répéter les règles et de ne pas entrer dans le cadre classique. Et que donc, il veut déranger. Il veut créer de la perturbation. D'où, il le sait parfaitement qu'il est en train d'enfreindre toutes les règles et de casser un peu toutes les idoles de la politique étrangère. Mais peu lui importe. Ce qu'il veut, c'est surprendre.
Voilà, qu'importe qu'on t'aime ou qu'on te blâme, l'important c'est la réclame. C'est ce que je comprends de ce que vous nous dites. Il y a quand même une chose qui m'a frappée, Pierre Vimont, c'est que on se souvient tous du premier discours de Trump 1 à la tribune des Nations Unies, parce que c'était tout aussi excessif et honnêtement, l'Assemblée était morte de rire, ce qui est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais l'Assemblée était morte de rire. Là, l'Assemblée ne rit pas, ou quand elle rit jaune. Et ça dit quand même beaucoup de choses quand autour de lui, là, les chefs d'État, c'est des chefs d'État quand même qui l'écoutent, hein, ne rit plus du tout.
Vous avez tout à fait raison, et c'est pour moi le facteur le plus important du deuxième mandat de Trump, c'est la peur. Et c'est pas simplement aux Nations Unies, c'est dans toute l'Amérique. J'étais déjà présent aux États-Unis lors de du premier mandat de Trump, exactement il y a 8 ans, à peu près au moment où il avait fait son intervention aux Nations Unies. Et ce qui m'avait frappé, c'était sur les campus universitaires américains, la façon dont la réponse immédiate avait été le soulèvement des campus, et la volonté de résister, et des déclarations définitives sur la résistance à Trump. 8 ans plus tard,
il n'y a plus ça du tout.
Et on voit bien, en particulier dans les universités, que chacun essaye de voir comment ils peuvent se sortir de cette tempête.
Allons-y à New York, allons-y à l'ONU, si vous le voulez bien. Pierre Vimont, le principe de la diplomatie, vous le savez mieux que qui compte, c'est de ne pas dire grand-chose publiquement. On a quand même essayé de demander à ceux qui ont assisté à ce discours à l'ONU justement ce qu'ils en ont pensé, donc les chefs d'État, les ONG, les ambassadeurs, il y a tout ce monde. Et c'est vous qui avez fait ce tour de force, Franck Madvon, bonsoir à vous. Et ce qui en ressort apparemment, c'est que dans la sidération, il faut bien choisir ses mots.
Oui, il y a encore quelques années, les dirigeants, les délégués présents à l'ONU n'hésitaient pas à s'exprimer, bien souvent pour tourner en ridicule les rodomontades de Donald Trump à la tribune. Aujourd'hui, la plupart fuient les micros, prudence, et quand ils prennent la parole, ils évitent de taper trop fort sur le président américain, même si personne ne peut nier la violence d'un discours qui a notamment pris pour cible l'inefficacité de l'ONU, vous l'avez dit. Voici ce que retient le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Le discours, c'est une chose. Les discours, c'est de la politique. Mais la décision de financer, de soutenir les Nations Unies, c'en est une autre. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Après tout, en effet, Washington reste un pilier de l'ONU, mais certains n'en sont pas moins sous le choc. L'actrice et mannequin Amber Valletta vient d'être nommée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies.
C'est décevant que le président des États-Unis ne cherche pas la paix, le recours à la diplomatie, le rassemblement à un moment qui en a tant besoin. Pour être honnête, ça fend le cœur de constater que dans notre démocratie, c'est le genre de rhétorique qu'on a fini par adopter.
Thomas Sandel, lui, participe à l'AG de l'ONU au nom d'une petite ONG européenne de lutte contre l'antisémitisme. Il est finlandais et pour lui, les Européens, accusés par Trump d'inaction face à l'immigration, doivent tirer des leçons de ce discours.
C'est un réveil pour l'Europe et sa relation transatlantique, et aussi pour l'avenir du multilatéralisme. Comment survivre dans ce contexte? C'est facile de rejeter un tel discours, de dire que c'est ridicule, que c'est le langage d'un chauffeur de taxi de New York. Mais c'est le leader de la seule superpuissance aujourd'hui.
Et ce responsable d'ONG estime qu'il faut savoir lire entre les lignes, ne pas s'arrêter au style Trump, sur la dépendance à l'énergie russe, peut-être aussi sur l'immigration, dit-il. Certains messages méritent l'attention des Européens.
Merci beaucoup, merci à vous Franck Madvon. Avec nous, depuis New York, c'est un réveil, un wake-up call, nous dit ce dernier intervenant, Pierre Vimont. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, écoutez, qu'il se débrouille, en fait, au revoir et débrouillez-vous. Est-ce qu'il y a un chemin pour dire ça au président des États-Unis, ou de toute façon, comme le dit cet intervenant, il faut faire avec?
C'est-à-dire que, avec Trump, tout est plein de contradictions en permanence. Regardez dans son discours, il pourfend une fois de plus le Brésil en disant qu'il a pris des sanctions fortes parce que les autorités brésiliennes ont décidé de mener cette action en justice contre Bolsonaro.
Et en même temps, il tape dans le dos de Lula au passage.
Il l'a rencontré la veille et il dit « ça a l'air d'être un type très bien, je vais discuter avec lui et je l'aime bien ». Trump est plein de contradictions, il n'a pas de stratégie en réalité. Et donc, c'est ce que disent à peu près tous les gens que vous avez interrogés, c'est il faut tenir compte de cette réalité-là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Parce que au fond, Trump, lorsqu'on sait s'opposer à lui, au fond, il n'a plus beaucoup d'arguments, il écoute. Ce qui était très intéressant...
Ça veut dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Enfin, c'est quand même
il y a un peu de ça, mais c'est peut-être plus complexe, à mon avis. Mais regardez le dialogue assez intéressant hier soir entre le président de la République et Donald Trump sur la Palestine. Au fond, il commence par dire « Vous n'auriez pas dû reconnaître la Palestine ». Le président de la République lui répond et lui explique sa position. Et Trump n'a pas d'argument à mettre en face. Et c'est souvent comme ça avec Trump. Donc là où je trouve que ce que vos interlocuteurs disaient il y a quelques secondes est juste, c'est qu'il met souvent le doigt sur des faiblesses et qu'il faut en tenir compte, en effet. Mais la vérité, c'est qu'il le fait avec des formules à l'emporte-pièce, sans beaucoup d'arguments et sans beaucoup de propositions.
Mais la vérité, c'est aussi que sa parole est démonétisée. Du coup, là, par exemple, on a entendu Volodymyr Zelensky, évidemment qu'il se félicite de ce qu'il a entendu, il ne peut pas dire autre chose, bien entendu, mais je suis à peu près convaincu qu'il est terriblement inquiet que Donald Trump dise exactement l'inverse demain.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est, si vous prenez l'exemple de ce tweet, très long tweet d'ailleurs hier sur l'Ukraine, il faut se demander pourquoi il a fait ça et quelle est la vraie motivation derrière. Et à mon avis, la vraie motivation derrière, quand il dit l'Ukraine peut récupérer les territoires perdus et elle
voire
peut gagner
aller plus
cette
loin.
Guerre,
ouais.
Voire plus loin, c'est une manière de dire à vous de vous débrouiller puisque vous avez la capacité de gagner cette guerre. Moi, États-Unis, je ne vais pas m'en mêler.
Vous croyez, parce que dans le même temps, il donne toujours armes et argent. Pour l'instant, il n'a pas fermé ce robinet-là.
Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas envie d'intervenir dans cette guerre, comme dans toute autre guerre d'ailleurs. Et ça veut dire que ça peut avoir des conséquences demain sur Taïwan.
Ah oui. Est-ce que vous diriez qu'il a précisément ouvert une boîte de Pandore, en fait? Si lui peut le faire, si le président des États-Unis peut le faire à la tribune de l'ONU, n'importe qui peut le faire.
Oui, en effet, mais il est quand même très particulier dans son genre. C'est une personnalité. Les deux grands rivaux...
Il a quand même déjà décomplexé pas mal de chefs d'État, pas mal de pays, en tout cas, Donald Trump. Donc...
Oui, la vraie différence, comme cela a été dit dans votre émission un peu plus tôt, c'est qu'il reste aujourd'hui une puissance, la puissance américaine, qui est sans pareil dans le monde. Ce que je crois quand même, et ce qu'il faut observer avec attention, c'est que dans la politique étrangère de Trump, dans sa politique commerciale, dans sa politique migratoire et dans beaucoup d'autres, il y a beaucoup de contradictions. Et que peu à peu, celles-ci vont apparaître. Et que c'est ça qu'il faut observer avec attention. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir rester ferme de temps en temps face à Trump et ne pas hésiter à défendre ses propres intérêts. C'est ça qui est sans doute l'essentiel. Il faut en quelque sorte avoir une épine dorsale, une colonne vertébrale et s'y tenir. Et les Européens, pour le moment, ne sont pas encore arrivés à ce point-là.
En tout cas, ils n'ont pas la même, si j'en crois ce que vous nous disiez. Effectivement, ils ont chacun une épine dorsale très différente. Merci beaucoup, Pierre Vimont. Merci,
merci
vraiment.
À vous.
Votre passage chez nous. La suite, c'est vous, Frédéric Saïzour. Mettez le monde à l'endroit.
Le débat sur la taxation des plus riches, crainte sur l'endettement, ça se passe en Allemagne et ça nous rappelle quelque chose.
Et c'est juste après ça. Nusantarabit, ce sont des Hollandais d'origine indonésienne et Tamat, c'est le titre, est dans la playlist de France Inter. Frédéric Seix remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Frédéric, il y a un absent en ce moment à New York, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le chancelier allemand est resté à Berlin pour l'examen du budget.
Il a déplié son mètre 98, ajusté ses lunettes et face aux députés allemands, Friedrich Merz s'est lancé dans un discours plutôt sombre. Notre pays, dit-il, traverse l'une des phases les plus difficiles de son histoire moderne. C'est une allusion à la menace russe et aussi à la nécessité d'investir massivement dans la défense. Voilà pourquoi l'Allemagne s'endette comme jamais. L'an prochain, elle compte emprunter 175 milliards d'euros, trois fois plus qu'une année classique. Choc culturel dans ce pays qui a fait du sérieux budgétaire sa marque de fabrique. Voici la cigale devenue fourmi et le chancelier contraint d'expliquer pourquoi il ouvre les vannes de la dépense publique.
Et il est si sensible que ça, ce budget allemand, Frédéric, pour justifier que Friedrich Merz sèche l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Oui, parce que les oppositions l'accusent déjà d'être déconnecté, un dirigeant accaparé par les affaires étrangères, au point d'oublier la vie quotidienne des Allemands. « Monsieur le chancelier, venez prendre un train régional avec moi », lui a lancé ce matin une élue écologiste. « Vous verrez dans quel état se trouve le réseau ». Bref, dans ce contexte, on comprend qu'il soit délicat de préférer New York à Berlin et l'avion au train. Présence indispensable de Friedrich Merz, aussi parce que sa majorité tient à un fil, seulement 12 voix d'avance parmi les députés. Alors vous me direz, en France, Sébastien Lecornu s'en contenterait largement de ces 12 voix d'avance, mais l'Allemagne est gouvernée en coalition, alliance de la droite et du centre-gauche. Et évidemment, le budget, c'est le moment de l'année où ça peut coincer, où ça peut tirer, y compris entre alliés. Un exemple, Fabienne, le centre-gauche veut un impôt sur les plus fortunés. Là aussi, ça nous rappelle les débats français, mais le chancelier conservateur y est très réticent, il préférerait, lui, réduire l'enveloppe des minima sociaux.
Friedrich Merz qui veut surtout éviter tout déchirement public au sein de son gouvernement.
Pour ne pas altérer davantage l'image de l'Allemagne, jadis le champion économique de l'Europe, désormais un pays en récession, Merz vient d'ailleurs de nommer un monsieur attractivité, un ancien banquier chargé de vendre l'Allemagne auprès des investisseurs du monde entier, vanter l'attractivité allemande comme si ce n'était plus une évidence. Le chancelier veille aussi à maintenir l'unité de sa coalition parce que l'extrême droite est en embuscade. Le parti AfD, c'est la deuxième force à l'Assemblée nationale allemande, le Bundestag. Une extrême droite qui reproche au gouvernement des dépenses jugées inutiles, par exemple pour l'audiovisuel public ou pour des expositions consacrées aux artistes LGBT. Voilà qui donne le ton des débats qui vont se poursuivre pendant encore deux mois. Ce matin, le chancelier a appelé à rejeter les divisions et à bâtir des compromis. Compromis, encore un mot qu'on entend beaucoup en ce moment dans notre 5e République, même si de l'autre côté du Rhin, il semble un peu moins chimérique.
Frédéric Seix, merci beaucoup, à demain.
These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter.
Le reportage n'est pas à l'ONU ni sur un escalator. Il est à Venise où s'en est fini des excès de vitesse. Alors vous me direz, comment ça? Il y a bien des limitations comme partout. Ouais, mais là on parle des excès de vitesse sur les canaux. Depuis cet été, environ 70 capteurs sont apparus le long des canaux. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des plus petites embarcations et surtout de limiter les remous qui ont leur responsabilité grandement dans la destruction à petit feu de cette ville unique au monde. Et hop, en bateau. Le reste, c'est Bruno Duvic qui raconte.
Lucio Cons est amarré à la sortie de la gare. C'est l'une des figures de l'association Ensemble contre le moto ondoso, ces remous qui sapent Venise. Il nous emmène sur le Grand Canal, aux aires de périphérique parisien, en fin de matinée.
D'ici au canal de Canareggio, c'est un chaos invraisemblable de bateaux. Devant nous, il y a deux Vaporetti à la file, et même un troisième. Regarde la fumée qui en sort. Entre les taxis, les gondoles, les bateaux de transport, il doit y avoir une quinzaine d'embarcations entre ces deux ponts. Depuis les années 50, le nombre de bateaux à moteur à Venise est passé de 10 000 à plus de 70 000.
Plus il y a de bateaux, plus il y a de remous. Et les conséquences, on les voit sur ce palais, tout près du pont du Rialto.
Tu vois la ligne verte? Ce sont des algues laissées par les vagues. Il y a une fente entre deux pierres. C'est le mortier qui a été retiré par la houle. À un moment, une pierre tombe et tu réalises qu'il se passe quelque chose. Ça s'écroule de l'intérieur. Nous sommes en train d'effriter Venise.
C'est avant tout pour lutter contre ce phénomène que les radars ont été installés. Lucio ralentit, vitesse limite 7 km/h, pour montrer un de ses engins.
Ça, c'est une caméra pour éviter les sabotages. Il y a un système infrarouge pour les contrôles de nuit, et puis la caméra, à proprement dite.
Les premiers temps, on se croyait revenu à l'époque du Covid, disent les Vénitiens, pour décrire le calme revenu sur les eaux. Et puis les malins ont intégré la carte des radars, la vitesse remonte petit à petit, mais ce n'est rien à côté des zones où il y a peu de radars, comme entre le nord de la Venise historique et l'île de San Michele, le cimetière. 11 km/h autorisé le long des quais, notre petite barque est dépassée par un bolide.
C'est une ambulance privée. Ces bateaux provoquent des remous monstrueux. Il va au moins à 20-25 km/h. Résultat, 5 vagues qui vont marteler la rive. C'est comme si en ville, tu avais des voitures avec des chenilles qui longent les murs. Cette vague, ça n'a l'air de rien, mais elle fait 70 cm de haut. J'ai aussi une barque à rame qui mesure 25 à 30 cm de hauteur. Avec une vague pareille, je coule.
L'amende pour excès de vitesse est de 138 euros. Les premières semaines, 150 infractions par jour ont été relevées. Le chiffre a baissé depuis. L'adjoint à la mairie en charge du dossier dresse un bilan positif de l'installation. C'est lui qui a porté le projet. Mais Michele Zuin reconnaît qu'il faut faire plus pour limiter la croissance exponentielle des bateaux à Venise.
Un seul exemple. Jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas le phénomène commercial type Amazon, ces paquets qu'on apporte à domicile. Vous imaginez à quel point cela a amplifié le trafic ? Telle enseigne que nous réfléchissons à un système de navire unique pour transporter les diverses marchandises.
25 millions de touristes viennent à Venise chaque année.
Bruno Duvic à Venise, merci beaucoup Bruno. La suite, c'est l'info internationale que vous avez été chercher sous les radars, Guillaume Audin.
Sous les radars et sur un bateau qui part de Chine, direction l'Angleterre, par le cercle polaire.
Allez, et puis écrire le monde comme chaque mercredi, Ilana Mor-Youssef.
Un écrivain français offre à la Finlande son grand roman national, c'est Olivier Norek et les guerriers de l'hiver.
Allez, à tout de suite les amis, nous faisons d'abord une escale avec Rosemary Stanley, c'est la voix du groupe Moriarty, dans cette reprise des Beatles, Because, sur France Inter et dans Un jour dans le monde, et merci à Djoubaka pour le choix.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Oh, because the sky.
Quelle très jolie reprise de Because des Beatles, signée Rosemary Stanley, la voix du groupe Moriarty. Sous les radars, c'est maintenant.
The Arctic is opening, and global warming and geopolitics has everything to do with it.
Guy Model résume tout, cette journaliste qu'on écoute. L'Arctique s'ouvre à la navigation commerciale, une affaire de réchauffement climatique et de géopolitique.
Oui, et cela, les Chinois l'ont parfaitement compris au moment où l'on se parle. Un immense porte-container vient de quitter le port de Ningbo à 150 km au sud de Shanghai, direction Felixstowe, le plus grand port en eau profonde d'Angleterre. Alors non pas via le canal de Suez et la Méditerranée comme il l'a toujours fait, mais cette fois-ci via le détroit de Bering. Ce bateau qui transporte essentiellement des vêtements destinés à l'Europe, il va naviguer en plein océan Arctique, au large des côtes russes. C'est la toute première fois qu'un armateur chinois emprunte cette route maritime polaire pour livrer des biens de consommation, un trajet deux fois plus rapide que les autres pour une baisse des émissions de dioxyde de carbone d'environ 50% par navire, ça n'est pas si mal. Et c'est possible, paradoxalement, grâce à la fonte des glaces et donc au réchauffement climatique. C'est aussi le fruit d'une entente stratégique entre Pékin et Moscou et c'est de nature à bouleverser la géopolitique du commerce mondial. 80% de ce qui se vend et s'achète sur la planète a transité par les mers.
We are demanding, we are requesting for reserve seat bill to increase representation of women.
Nous sommes à Abuja, Guillaume, la capitale du Nigeria, où cette femme et 500 autres encore ont fait hier le siège du Parlement. Elles veulent plus de pouvoir.
Et elles ont bien raison. Elles représentent la moitié de la population de ce pays, le Nigeria, qui compte 232 millions d'habitants. Tout de même, elles sont ultra mobilisées, les Nigérianes, lors des élections générales. Donc logiquement, elles exigent une meilleure représentation au Parlement, plus que dominée par la gente masculine. Je donne quelques chiffres. Il y a 469 sièges de députés et de sénateurs au Nigeria, seulement 20 sont occupés par des femmes, contraste saisissant avec la société nigériane où les femmes ont une place très importante dans de nombreux secteurs d'activité. Le commerce, le pétrole, la banque, la culture. Chimamanda Ngozi Adichie, magnifique écrivaine, elle vend des millions de livres à travers le monde et elle inspire des générations de femmes à qui il ne manque que d'exercer les plus hautes fonctions dans leur pays. Un projet de loi devrait être déposé prochainement pour leur réserver au moins 35% des sièges au Parlement. Espérons qu'il soit voté, ce projet, ce serait tout bénef pour le Nigeria. Bien souvent, lorsque les femmes exercent le pouvoir, vous en savez quelque chose, Fabienne, elles remettent les choses à l'endroit. Elles sont plus inclusives, nettement plus attentives
c'est
aux politiques sociales, moins vindicatives. Ah. Bref, elles mettent le monde et elles marchent dans le sens de l'histoire.
Changement d'ambiance, on est à San Francisco, changement d'ambiance réelle à San Francisco. Et ça, c'est le maire de la ville qui nous le dit, un certain Daniel Lurie.
Oui, il faut le retenir, hein, son nom à Daniel Lurie, impeccable dans son costume fit, cravate bleue, coupe ordonnée, sa tranche avec la Californie peroxydée. Et ce qu'il nous dit, ce maire démocrate, c'est que San Francisco est de retour en force sur la carte des villes qui comptent aux États-Unis, mais pas seulement. Pourquoi ? Parce que là-bas, le crime est en baisse, les habitants et les touristes reviennent, mais surtout, SF abrite le Centre mondial de l'intelligence artificielle. Le siège d'OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, on l'a tous dans nos poches. Évidemment, cela attire les géants de la tech. Nvidia, le mastodonte du microprocesseur, se cherche des locaux en ville. San Francisco, qui s'attire également les foudres de qui ? De Donald Trump, qui partout où il le peut s'en prend aux démocrates. Deux défis à venir pour Daniel Lurie. La garde nationale, elle est en route, et les coupes budgétaires.
Eh bien, on lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Guillaume Oda. Vous revenez demain, le mercredi. Ilana Mor Youssef lit les auteurs qui regardent la planète. Ça s'appelle Écrire le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Alors, Ilana, au début de l'été, on a appris que la Finlande avait décidé de se retirer de la Convention internationale sur les mines antipersonnelles. Et la raison, c'est que la Finlande a une frontière de 1350 km avec la Russie. Et vous avez immédiatement pensé au prodigieux roman d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, la révélation de la rentrée littéraire 2024, 350 000 exemplaires vendus en France et une tournée triomphale en Finlande.
Les guerriers de l'hiver, c'est le récit de la résistance héroïque de la Finlande, attaquée par Staline en 1939 et amputée d'une partie de son territoire. Tout cela raconté à travers l'histoire d'un sniper de légende, Simo Aiha, que les Russes avaient surnommé la mort blanche. Un roman à hauteur de cœur, d'âme et de tranchée, comme dit Olivier Norek. Un roman aussi qui exalte les valeurs de l'amitié, du courage et d'une certaine force d'âme, si ce mot a encore un sens.
Et la résonance avec la guerre en Ukraine est évidente.
Et elle est si évidente que le président finlandais Alexander Stubb, de passage à Paris, a encensé le roman d'Olivier Norek. C'était le 5 septembre dernier, dans la matinale de France Inter.
On comprend un peu comment on perd le territoire, parce que la Finlande a perdu 10%, y inclut le territoire où mon père et mes grands-pères sont nés. Et il y a un très bon livre pour ça. Sur la guerre de l'hiver.
Exactement, les guerriers de l'hiver.
Olivier Norek.
Mais oui, il faut le lire. Hein.
Et figurez-vous, Fabienne, qu'au même moment, Olivier Norek, lui, se trouvait précisément en Finlande, où son livre vient d'être traduit. Il a reçu un accueil triomphal. Librairie bondée, double page dans le plus grand quotidien finlandais, rencontre avec la ministre des Affaires étrangères, avec l'ancien champion du monde des rallyes, Ari Vatanen, avec des vétérans, des hommes, des femmes, des enfants. Pour vous donner une idée de l'émotion suscitée par ce roman en Finlande, il faut écouter cette lectrice d'Helsinki au micro d'Elsa Goldstein.
Beaucoup de romans en finnois ont été écrits là-dessus, mais là, c'est une nouveauté internationale, étrangère à nous autres. Et là, je m'étonne tellement justement que Olivier Norek ait trouvé ce qui est essentiel dans cette guerre et l'essentiel dans notre mentalité. Il a décrit aussi le côté russe. Et là, je ne peux qu'admirer l'écrivain. Il nous touche et en plus, il nous a rendu service dans le sens que cette guerre qui est de grande actualité aujourd'hui peut faire le tour du monde.
Alors cette femme le dit bien, le roman d'Olivier Norek aborde aussi le côté russe. Ce n'est pas du tout un roman anti-russe, comme en témoigne le prologue du livre.
La lumière pleut sur ses yeux fermés, sur son corps allongé, au cœur arrêté. Autour de lui, le dernier jour de la guerre jonche le sol de dépouilles par milliers, déposées à la surface de la neige rouge. Dans la mort, seuls leurs uniformes les distinguent. Ils étaient ennemis, ils sont désormais allongés côte à côte. Ici, leurs mains se touchent, là, leurs visages éteints se font face. Voilà tout un hiver qu'ils s'entretuent. Les cadavres des semaines passées sont enfouis à moitié dans le sol. Vestiges, on voit encore leurs casques, parfois un peu de leur dos. On voit leurs bras en racines aériennes, comme s'ils poussaient de la terre même, prêts à revenir, se relever et hanter ceux qui ont décidé de cette guerre.
Extrait lu par Laure Grand-Besançon.
Très bien d'ailleurs.
Absolument. Et vous avez noté, Fabienne, je l'espère, le passage du singulier au pluriel. Le destin d'un seul est le destin de tous, russes comme finlandais.
Alors, Ilana, Olivier Norek est resté une semaine en Finlande. Vous l'avez rencontré à son retour.
Oui, je l'ai vu hier et je lui ai demandé quel était son souvenir le plus marquant de ce séjour.
Ce moment incroyable, je suis dans la ville de Rautiarvi. Rautiarvi, c'est la ville de naissance de Simo Aiha, le sniper dont parle le livre. Et qu'on m'explique qu'il a fallu aller chercher des chaises partout. Parce qu'il y avait des inscriptions qui n'arrêtaient pas. Dans cette médiathèque de village, on se retrouve complètement bondé avec des gens partout, assis, debout, qui avaient envie d'écouter un étranger parler de leur histoire. Et puis au bout de 2-3 heures de questions-réponses, je suis un peu lessivé, et il y a un homme qui se lève, et très cérémonieusement, qui m'offre la médaille des guerriers de l'hiver. Cette médaille, elle est donnée uniquement aux soldats qui ont risqué leur vie, aux soldats qui ont eu le courage de défendre leur pays. Je peux pas l'accepter, cette médaille, mais je peux pas non plus la refuser. Donc elle est là, sur mon bureau, elle est devant moi, elle y restera, mais elle n'est pas pour moi, ça n'est pas ma médaille, j'en suis juste le gardien. Et c'est probablement un des plus grands moments de toute ma vie, d'écrire un livre sur ces soldats, et de voir que ces familles, ces descendants, ces vétérans se sont entendus pour m'offrir cette médaille que je ne mérite absolument pas, mais dont je suis désormais le protecteur.
Et voilà ce que peut la littérature quand elle s'adresse à la fois au cœur et à l'esprit.
Les guerriers de l'hiver, donc, d'Olivier Norek, c'est publié aux éditions... Oui, pardon, Ilana ?
Oui, allez-y.
Je croyais que vous vouliez ajouter... Mais vous me faites un signe, alors.
Oui, voilà.
Voilà, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, publié aux éditions Michel Lafond, et le roman vient de sortir en pocket. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'une rencontre avec l'auteur est organisée le 26 septembre, ce vendredi soir, au Théâtre de la Concorde, pour le lancement de l'édition pocket. C'est gratuit, il faut juste réserver sur le site théâtredelaconcorde.paris.
Est-ce que c'est bon, Ilana?
Ça va, je vous rends
le micro. À la semaine prochaine. La suite, c'est le 19h avec Florence Paracolos. Et puis le téléphone sonne, le temps de descendre jusqu'au studio 104. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Journée spéciale santé mentale sur France Inter. Nous y prenons part évidemment. Et nous parlons avec vous des proches, des malades mentaux. La lourde charge d'accompagner quelqu'un qu'on aime et qui souffre.
Karen, notre fille est schizophrène, diagnostiquée à ses 19 ans. Le chemin a été long, marqué par de nombreuses hospitalisations. Elle a aujourd'hui 30 ans, vient d'obtenir un master. C'est un parcours difficile pour les parents. Mais accepter la maladie est une étape clé. Nicolas, j'ai une expérience de 25 ans auprès de ma sœur dépressive. En tant que proche aidant, on n'est jamais préparé, on est impuissant et c'est difficile à accepter.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. Le même chemin par WhatsApp pour vos pouces, bien sûr, et en direct, évidemment, dans le studio 104. À tout à l'heure.